Il fut interrompu par un frère tourier qui frappa à sa porte et lui annonça l'arrivée d'un chevaucheur de Paris. « De qui vient-il ? » demanda le cardinal. De Haize avait une voix étouffée, feutrée, totalement dépourvue de timbre, bien que fort distincte. « Du comte de Beauville, » répondit le tourier. « Il a dû marcher vite, car il a l'air bien là. Le temps que j'aille lui ouvrir, je l'ai trouvé à demi endormi, le front contre le ventail.
« Menez-le-moi séant. »
Et le cardinal, qui quelques minutes auparavant méditait sur la vanité des ambitions de ce monde, pensa aussitôt « Est-ce au sujet de l'élection ? La cour de France rallierait-elle ouvertement à mon nom ? Va-t-on me proposer un marché ?» Il se sentait tout agité, plein de curiosité et d'espérance, et arpentait la chambre à pas courts et rapides. De Haize avait la taille d'un enfant de 15 ans, un museau de souris sous de forts sourcils blancs, une ossature fragile. Derrière les vitres, le ciel commençait à rosir. On ne pouvait pas encore souffler les cierges, mais déjà le petit jour dehors dissolvait les ombres. La mauvaise heure était passée. Le messager entra. Le cardinal, du premier coup d'œil, sut qu'il n'avait pas affaire à un chevaucheur de métier. D'abord, un vrai chevaucheur eut aussitôt mis un genou en terre et tendu la boîte contenant les plis au lieu de rester debout en inclinant la tête en disant « Monseigneur ». Et puis la cour de France, pour acheminer son courrier, utilisait le fort cavalier à carrure solide, bien aguerri, comme le grand Robin qui se maria, spécialement affecté au trajet entre Paris et Avignon, et non un tel jouvenceau à nez pointu, qui paraissait à peine avoir gardé les paupières ouvertes et titubait de fatigue sur ses bottes. « Voilà qui sent fort son déguisement, » se dit De Haize. « D'ailleurs, j'ai déjà vu ce visage en quelque endroit. » De sa main menue et courte, il fit sauter les cachets de la lettre et fut bientôt déçu. Il ne s'agissait pas de l'élection, mais d'une demande de protection pour le messager lui-même. Néanmoins, De Haize voulut reconnaître là un indice favorable. Lorsque Paris avait un service à obtenir des autorités ecclésiastiques, c'était à lui qu'on s'adressait.
« Ainsi, vous vous nommez Guccio Baglioni, » dit-il quand il eut terminé sa lecture.
Le jeune homme sursauta.
« Oui, monseigneur. »
« Le comte de Beauville vous recommande à moi pour que je vous prenne sous ma garde et vous dérobe aux poursuites de vos ennemis. »
« Si vous acceptez de me faire cette grâce, monseigneur. »
« Il paraît que vous avez eu quelque mauvaise aventure qui vous a forcé de fuir sous cette livrée, »
continua le cardinal de sa voix rapide et sans résonance.
« Contez-moi cela. Beauville me dit que vous faisiez partie de son escorte lorsqu'il conduisit la reine Clémence en France. En effet, je me souviens à présent. Je vous ai vu auprès de lui. »
« Et vous êtes le neveu de Messer Tholomei, le capitaine général des Lombards de Paris. Fort bien, fort bien. Contez-moi vos affaires. »
Il s'était assis et jouait machinalement avec un gros pupitre tournant sur lequel étaient posés les livres qui servaient à ses travaux. Il se trouvait maintenant détendu, tranquille, et tout prêt à se distraire l'esprit avec les petits problèmes d'autrui. Guccio Baglioni avait parcouru 120 lieues en 4 jours et demi. Il ne sentait plus ses membres. Une brume dense lui emplissait la tête, et il aurait donné n'importe quoi pour s'étendre là, à même le sol, et dormir. Dormir. Il parvint à se ressaisir. Sa sécurité, son amour, son avenir, tout exigeait qu'il surmontât pour un moment encore sa fatigue.
« Voici, monseigneur, j'ai épousé une fille de noblesse, » répondit-il.
Il lui sembla que ces mots sortaient de la bouche d'un autre. Il aurait voulu commencer tout différemment, il aurait voulu expliquer au cardinal qu'un malheur sans pareil venait de s'abattre sur lui, qu'il était l'homme le plus accablé, le plus déchiré de l'univers, qu'on menaçait sa vie, qu'il lui avait fallu s'éloigner, à jamais peut-être, de la femme sans laquelle il ne pouvait respirer, que cette femme allait être enfermée, que les événements avaient croulé sur eux depuis une semaine avec une telle violence, une telle soudaineté, que le temps paraissait perdre ses dimensions habituelles, et que lui-même, Guccio, se sentait pareil à un caillou roulé par un torrent. Or, tout son drame, lorsqu'il fallait l'exprimer, se résumait à cette petite phrase « Monseigneur, j'ai épousé une fille de noblesse. »
« Ah oui !» fit le cardinal.
« Comment se nomme-t-elle »
« Marie de Cressay. »
« Cressay, je ne connais pas. »
« Mais j'ai dû l'épouser secrètement, monseigneur. La famille était opposée. »
« Parce que vous êtes un Lombard, bien sûr. Ils sont encore un peu arriérés en France. » En Italie, certes. Alors, vous voulez obtenir l'annulation ?
Bah, si le mariage a été secret. Mais non, monseigneur. Je l'aime elle-même, dit Guccio. Mais sa famille a découvert qu'elle était enceinte et ses frères m'ont poursuivi pour me tuer.
Ils peuvent le faire, ils ont le droit coutumier pour eux. Vous vous êtes mis en situation de ravisseur. Qui vous a marié ?
Le frère Vincenzo des Augustins.
Fra Vincenzo ? Je ne connais pas.
Le pire, monseigneur, est que ce moine est mort. Ainsi, je ne peux même pas prouver que nous sommes vraiment mariés. Mais ne croyez pas que je sois lâche, monseigneur. Je voulais me battre. Seulement, mon oncle s'est adressé à messire de Bouville,
qui vous a sagement conseillé de prendre du champ.
Mais Marie va être enfermée dans un couvent. Pensez-vous, monseigneur, que vous pourrez l'en faire sortir ? Pensez-vous que je la reverrai ?
Ah, une chose à la fois, mon cher fils, répondit le cardinal en continuant à faire tourner son pupitre.
Un couvent ? Eh bien, où pourrait-elle être mieux pour l'instant ?
Espérer en l'infinie mansuétude de Dieu, dont nous avons tous si grand besoin.
Guccio baissa la tête d'un air épuisé. Ses cheveux noirs étaient couverts de poussière.